Place maintenant au Journal des Amériques et d'Haïti en compagnie d'Anne Verdaguer. Anne, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Au sommet de ce mercredi 26 février, on sera tout d'abord à la frontière entre la Colombie et le Venezuela avec notre envoyé spécial Marie Normand. Frontière fermée par Caracas depuis quelques jours pour empêcher l'aide internationale de rentrer. Mais des passages clandestins existent, on entendra son reportage dans un instant. On va parler de cette arrestation hier d'une équipe d'une chaîne en espagnol au palais présidentiel à Caracas. Cela fait la une de la presse. Ils réalisaient un entretien avec le président vénézuélien Nicolas Maduro et ont été ensuite relâché. On entendra le journaliste de cette équipe qui nous expliquera ce qui a, selon lui, déclenché cet incident. Et puis notre rendez-vous avec Alter Press en Haïti, on évoquera avec Godson Pierre l'ouverture d'un comité pour le dialogue inter-haïtien après le mouvement de protestation populaire début février qui a paralysé le pays pendant 10 jours. Direction donc le Venezuela pour commencer, où la fermeture de la frontière avec la Colombie depuis vendredi sur décision du président Nicolas Maduro commence à affecter durement la population de la région. L'immense majorité des habitants vivent du commerce avec la Colombie. Ils y travaillent et achètent des produits de base difficiles à trouver côté vénézuélien ou bien trop chers. La fermeture de cette frontière est en revanche une aubaine pour les passeurs qui plus que jamais acheminent personnes et marchandises par des passages clandestins appelés là-bas les trochas. Le reportage à San Antonio del Táchira au Venezuela de notre envoyé spécial Marie Normand.
Regarde, tu peux voir là tous ces gens avec leurs valises. Ils cherchent à quitter le pays. Comme la frontière est fermée, ils doivent passer par les trochas, les passages clandestins. Là, c'est une de ces trochas qu'on appelle la caracola.
Pablo Rodriguez est journaliste spécialiste des faits divers dans un quotidien régional. Ces trochas, il y en a une quarantaine dans la zone de San Antonio del Táchira. Sur les routes proches du poste frontière se forment de petits groupes, des valises ou des bidons d'essence à la main.
Regarde, tu vois les types là avec leur talkie-walkie. Tu les vois, c'est comme ça qu'ils communiquent pour donner l'alerte si besoin aux passeurs. Ce sont eux qui contrôlent les trochas. La frontière, elle est juste là, derrière ces arbres. Le passage pour une personne vaut 20 000 pesos, 6 ou 7 dollars environ au taux de change actuel. Regarde celui qui marche devant ce groupe là avec son écharpe à la main. C'est lui le passeur.
Torse nu, l'homme en question va guider ses clients jusqu'au centre-ville. En tout, la traversée du Rio Táchira, qui sépare la Colombie du Venezuela, a pris moins de 10 minutes.
Ça paraît facile comme ça, mais il faut se souvenir que ceux qui contrôlent ces passages clandestins sont des groupes armés, des guérillas, des paramilitaires. Ici se regroupent les formes de bandes criminelles. Ce ne sont pas juste des gens qui passent par ces trochas. Passe aussi le trafic d'êtres humains, la drogue, le caoutchouc, l'essence. Tout ce qui a une valeur monétaire dans cette partie du pays passe par les trochas. L'ironie, c'est à quelques mètres, là on a le tribunal de justice, la garde nationale, l'armée. Ils prennent un pourcentage pour chaque personne qui passe. Si le passeur prend 20 000 pesos, il doit donner au moins 5 000 aux groupes armés et 5 000 à la garde nationale ou à l'armée.
Et les passeurs ne se cachent pas. Ils sont connus de tous, sont pignon sur rue, comme Jackson Malavé, 42 ans, qui contacte ses futurs clients sur un groupe Facebook dédié aux offres d'emploi de la région.
Moi, je fais passer 4, 5, 7 personnes par semaine. La majorité des gens préfèrent se débrouiller seuls et après, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Moi, je m'occupe de faire les démarches pour que tout se passe bien sur le chemin. Je ne fais pas ça juste pour l'argent. Moi, je le vois comme une manière de faire du social, aider et donner la main à ceux qui souhaitent quitter le pays. Et lui, je vais donner le meilleur de moi-même pour qu'il arrive sain et sauf de l'autre côté jusqu'à sa destination finale, à savoir le Pérou.
Devant lui, Darwin Barreto, 29 ans, a déjà fait 4 jours de route depuis l'est du Venezuela. Il est en train de se préparer.
C'est là que je dois faire tamponner la sortie et là l'entrée.
Il cache quelques billets dans ses chaussettes.
J'ai entendu dire que là-bas, ils nous contrôlaient et qu'ils nous volaient nos affaires.
Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est de ne pas pouvoir obtenir un extrait de casier judiciaire, le sésame, pour pouvoir travailler au Pérou. Ça aussi, Jackson, le passeur, va s'en occuper pour lui, en échange de quelques billets.
Pourquoi le Pérou ?
parce que je crois que c'est la meilleure économie d'Amérique latine. Le plan, c'est de passer en Colombie, puis d'acheter un billet de bus pour aller jusqu'au Pérou. Je suis mécanicien, donc j'aimerais trouver du travail dans un garage, mais je verrai bien ce que je trouverai. N'importe quel travail me fera gagner plus qu'ici.
Là-bas, au Pérou, Darwin rejoindra sa femme, qui est arrivée il y a 4 mois, et lui a envoyé de quoi payer son voyage. C'est ce mardi qu'il tentera de passer clandestinement la frontière. Marie Normand, Ourenia, RFI.
Bonjour Harim Leipold.
Bonjour à tous, bonjour Anne.
Vous nous avez rejoint pour la revue de presse des Amériques et on reste au Venezuela avec vous. Avec cette arrestation hier, c'est à la une de beaucoup de journaux latino-américains. Ce mardi, la libération d'un journaliste mexicain retenu avec son équipe pendant plus de 2 heures au palais présidentiel à Caracas.
Oui, il s'agit du célèbre présentateur Jorge Ramos, une vedette, vous savez, de la télévision mexicaine et latino-américaine. Il était venu au Venezuela pour interviewer le président Nicolas Maduro, lequel a visiblement peu goûté les questions du journaliste, car après 17 minutes, il a mis fin à l'interview, explique Jorge Ramos dans une interview avec sa chaîne de télévision Univision.
Nous avons été retenus pendant plus de 2 heures dans le palais de Miraflores. Nous avions une interview avec Nicolas Maduro et après environ 17 minutes d'interview, Nicolas Maduro ne semblait pas apprécier les questions que nous lui posions sur le manque de démocratie au Venezuela, sur la torture, les prisonniers politiques et sur la crise humanitaire qui est en cours. Il s'est levé après qu'on lui ait montré des vidéos de jeunes qui mangeaient ce qu'il y avait dans un camion poubelle. Juste après, un de ses ministres, Jorge Rodríguez, est venu nous dire que cette interview n'était pas autorisée. Ils nous ont confisqué tout le matériel, nous n'avons plus rien. Ils ont pris les caméras, tout le matériel et ils ont l'interview. Et ensuite, ils nous ont maintenus séparés pendant près de 2 heures et demie au sein du palais présidentiel pour nous interroger. Ils nous ont enfermés dans une pièce sécurisée et ont éteint la lumière. Ils nous ont arraché les téléphones portables, nos sacs de reportage. Ils ont conservé nos affaires personnelles. Et là, on vient tout juste de rentrer à l'hôtel.
Voilà, Jorge Ramos, le journaliste de la télévision Univision. Et Harim, cette affaire a fait des vagues jusqu'à certaines chancelleries.
Oui, le département d'État à Washington, par exemple, avait appelé le Venezuela à relâcher le journaliste, écrit le journal mexicain El Universal. Aujourd'hui, le quotidien vénézuélien El Nacional, proche de l'opposition, rapporte que les journalistes d'Univision ont été escortés ce matin à l'aéroport de Caracas. Le journal parle d'une expulsion. Il relate aussi la réaction officielle des autorités vénézuéliennes. « Nous ne nous prêtons pas à des shows télévisés », a déclaré le ministre de la Communication, Jorge Rodríguez.
Direction Cuba, à présent, Harim, Cuba, où la population a approuvé à plus de 86% la réforme de la Constitution.
Oui, les résultats ont été annoncés hier, lundi après-midi, lors d'une conférence de presse par la Commission nationale électorale. Les médias d'État jubilent. Cuba vote aussi, Cuba a voté oui. Écrit par exemple le journal en ligne Cuba Debate, qualifiant le résultat de soutien ferme à la révolution et au socialisme. Granma, pour sa part, salue la décision des Cubains d'appuyer, je cite, une œuvre qui a été construite et qui doit être perfectionnée. Le ton est différent dans les publications proches de l'opposition. Hier, lundi, la population cubaine retrouvait la routine de sa vie quotidienne et la majorité des gens ne montrent que peu d'intérêt pour les résultats du référendum, écrit le site d'information 14 Imeo. D'après le Miami Herald, le scrutin a été marqué par une mobilisation de l'opposition jamais vue auparavant. Le journal note que le texte entérine les réformes économiques entreprises pour moderniser le pays dans un monde où l'Union soviétique n'existe plus, mais il tient aussi à préciser que le système politique ne bouge pas, le Parti communiste restant sa colonne vertébrale.
On va au Brésil à présent avec cette lettre du ministère de l'Éducation qui fait polémique.
Oui, le ministre de l'Éducation a envoyé un courrier aux directeurs des écoles pour leur demander en fait de filmer les élèves pendant qu'ils chantent l'hymne national, même si le ministre précise qu'il s'agit là d'un exercice basé sur le volontariat. La demande du ministre a suscité l'ire des professeurs. Elle est inappropriée sur la forme et sur le fond, a par exemple expliqué Arthur Fonseca Filho, président d'une association de professeurs, dans une interview au journal Au Globo. Autre point qui fait polémique, Anne, la lettre du ministre reprend à la fin du texte le slogan de campagne du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, à savoir le Brésil au-dessus de tout, Dieu au-dessus de tous. Cette lettre doit être lue devant la classe, précise le ministre de l'Éducation, tout en rappelant le caractère, comme on l'a dit, volontaire de cette action.
Au Canada, le chef du parti de gauche NPD crée la surprise.
Oui, Jack Meetsing est le premier représentant d'une minorité visible, en l'occurrence des Sikhs, à diriger un parti fédéral canadien d'envergure, à savoir le NPD. Il a remporté hier une élection partielle dans le Burnaby Sud et siège désormais au Parlement. C'est à la une du journal Le Devoir. Selon le quotidien La Presse, cette élection décidait du sort politique de Jack Meetsing. Celui-ci comptait sur une victoire pour lui donner une plus grande visibilité au Parlement en vue des élections législatives d'octobre prochain, car Jack Meetsing, 40 ans, fils d'immigrés indiens, compte défier le Premier ministre libéral Justin Trudeau. Et comme le veut la tradition politique au Canada, eh bien les chefs de parti doivent siéger au Parlement pour pouvoir prétendre accéder au poste de Premier ministre.
Merci beaucoup à Rim Lipold pour cette revue de presse des Amériques. On part aux États-Unis à présent, où s'est ouvert hier le second procès contre le géant Monsanto. L'agriculteur californien Edwin Hardman, âgé de 70 ans, est atteint d'un cancer qu'il impute au désherbant, au glyphosate qu'il a manipulé pendant des années. La correspondance à San Francisco d'Éric De Salve.
Après sa condamnation cet été, c'est le second procès Monsanto, mais pour la première fois, le géant de l'agrochimie comparaît devant la justice fédérale et non plus seulement californienne. Ce second jugement devrait donner la tendance jurisprudentielle. L'enjeu est de taille, avec au total près de 9000 plaintes contre le Roundup aux États-Unis. Cette fois encore, la procédure a été lancée par un particulier malade d'un cancer de la peau, comme le jardinier Dwayne Johnson cet été. Edwin Hardman est atteint du même lymphome et a lui aussi manipulé de fortes doses de Roundup pendant des années. Diagnostiqué début 2015, cet habitant du nord de la Californie porte plainte un an plus tard contre Monsanto, aujourd'hui propriété du groupe pharmaceutique allemand Bayer. Mais au premier jour des audiences à San Francisco, les avocats de Bayer ont tenu à différencier les deux affaires. Hardman a été diagnostiqué à 66 ans quand Johnson était lui quadragénaire et en phase terminale quand lui est en rémission. En outre, Hardman a souffert auparavant d'une hépatite C, facteur de risque supplémentaire. À la demande de la défense, le juge a accepté de séparer le procès en deux phases. Dans la première, le jury devra déterminer s'il existe un lien entre le Roundup et le cancer. Si oui, les jurés devront dire dans un second temps si Monsanto a sciemment caché les risques. En août, la justice californienne avait répondu oui à ces deux questions. Éric De Salve, San Francisco, RFI.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
L'actualité haïtienne à présent avec Godson Pierre d'Alter Press, et l'on va évoquer cette nouvelle initiative de dialogue politique en Haïti après un nouveau soulèvement populaire en début de mois, Godson.
Le président Jovenel Moïse a procédé hier au Palais National à l'installation du comité de facilitation du dialogue interhaïtien avec 5 membres sur 7. Avant même la présentation publique du comité, 2 de ses membres ont en effet jeté l'éponge. Charles Suffrard, issu d'une structure organisationnelle paysanne, a démissionné 24 heures auparavant, déplorant un communiqué de la présidence annonçant que le comité aura à travailler à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Une mission qui ne figure pas dans l'arrêté signé par le chef de l'État le 21 février. L'autre personnalité qui ne s'est pas présentée à la cérémonie d'installation est l'entrepreneur Rudolf Desroses. Marie-Carmel Mentor, Kately Julien, Carlo Joseph, Dorothy Senatus et Marie-Michel Sylvie Rameau sont les 5 membres qui ont été installés. Le dialogue est l'exigence absolue de l'heure, s'exclame Jovenel Moïse dans son discours de circonstance. Il appelle les 2 autres pouvoirs de l'État, législatif et judiciaire, la classe politique, le secteur des affaires, la société civile et la communauté internationale à titre d'observateur, à apporter tout leur appui et toute leur collaboration afin que les conclusions du dialogue reflètent la volonté de toutes et de tous. Un appel réitéré par Ketly Julien qui a pris la parole au nom du comité de facilitation du dialogue interhaïtien.
Et alors, quelle chance, Godson, pour que ce dialogue apporte un apaisement à la situation en Haïti ?
Une chance très mince. Au lendemain de la dernière mobilisation antigouvernementale de début de février et en provoqué la paralysie générale des activités durant une dizaine de jours, le président Jovenel Moïse a eu des pourparlers avec des personnalités de divers milieux, notamment du secteur privé. La semaine dernière, il a buté sur le refus de la plateforme interreligieuse Religion pour la paix Haïti de servir comme facilitateur dans la crise. Des membres de cette structure estiment que les conditions ne sont pas réunies. Bientôt un an que le chef de l'État avait lancé les états généraux sectoriels de la nation, dont l'échec est patent, ainsi que le processus de dialogue confié au Premier ministre Jean-Henri Séan après la crise de juillet 2018 qui a emporté le précédent gouvernement de Jacques-Guy Lafontaine. Aujourd'hui, il n'y a pas de vrai dialogue en vue en Haïti, selon le père Jean-Denis Saint-Félix, doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université Notre-Dame d'Haïti et supérieur de la congrégation des jésuites dans le pays. Pour lui, les initiatives prises jusqu'à présent n'ont qu'une finalité cosmétique. Il estime qu'un réel dialogue nécessiterait un patient travail de préparation et d'appropriation qui devrait amener à poser non seulement les problèmes conjoncturels, mais également les difficultés structurelles, car, dit-il, il n'y a aucune solution possible aux problèmes du pays à l'intérieur du système en place qui est totalement épuisé et qui doit être repensé.
Merci Godson Pierre, notre partenaire d'Alter Presse. L'actualité ultramarine à présent avec le journal de la première présenté par Valentin Delefortory. Bonjour Valentin.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui en Guyane, le tribunal administratif de Cayenne a rendu sa décision. Il ordonne au centre pénitentiaire de Rémire Montjoly de changer d'urgence ses conditions de détention.
Oui, une décision de justice qui fait suite à un référé liberté de l'Observatoire international des prisons. L'organisme dénonçait des atteintes graves et illégales aux libertés fondamentales des détenus. Des atteintes qui vont donc devoir cesser. Nickerson Perdius.
Daté de 1998, le centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly devra appliquer en urgence toute une série de mesures qui visent à garantir les droits fondamentaux des détenus. Tout d'abord, il faudra garantir l'état de marche des sanitaires intérieurs et équiper une partie des cellules du centre de détention d'interphone. L'administration doit également cesser les fouilles intégrales dans les douches et aménager un espace approprié. Autre aménagement majeur, les toilettes de l'ensemble des cellules devront être isolées avec un système de cloisonnement afin de respecter l'intimité de chacun. Le centre pénitentiaire a également l'obligation d'effectuer un premier bilan sur la mise en œuvre de ces mesures dans un délai de 6 mois, puis un second délai de 6 mois. Un rapport qu'il va falloir adresser à l'OIP et au contrôleur général des lieux de privation de liberté.
À noter qu'en revanche, le tribunal a rejeté 2 demandes de l'observatoire, la fin de l'enfermement à 6 dans des cellules qui sont prévues pour moins, et puis l'incarcération des mères avec leur bébé dans une cellule ordinaire. Et direction la Martinique à présent, où les marins pêcheurs de Grand Rivière retrouvent le sourire. L'activité est restée au point mort pendant plusieurs semaines suite à une panne de la dragueuse en novembre dernier. Le manque à gagner est important pour certains professionnels, mais l'activité reprend progressivement. Christine Cupit.
Les sorties en mer ont repris, mais il faudra rattraper les longues semaines d'inactivité depuis que la dragueuse est tombée en panne. Jean-Philippe Marie-Sainte.
Il y a 15 jours, je suis allé en mer et là, je ne suis pas allé parce que le temps ne le permettait pas, mais je vais en mer. Le problème, ce n'était pas le financement de la CTM ni quoi que ce soit, c'était qu'il y a eu une panne sur la drague de M. Zilafontaine. On croise les doigts, ça va aller un peu mieux, on va dire. On est resté pratiquement 1 mois et demi sans travailler. Les charges vont arriver, l'URSSAF, le rôle. Qu'on se fasse rembourser au moins les charges.
Omer Salpêtrier, quant à lui, essaie de maintenir son activité à flot tant bien que mal. Ce transporteur de passagers possède 2 bateaux. Mais avec l'ensablement du port de Grand-Rivière, difficile d'assurer la desserte.
Figurez-vous, je pouvais fermer carrément l'entreprise parce que je perds du marché, je perds de la clientèle, je perds de la trésorerie. Dès que le port est ensablé, je ne peux pas travailler. Bon, pour le moment, il y a un petit soulagement.
Un appel d'offres a été lancé afin de désigner la nouvelle entreprise qui aura pour mission de draguer le port de Grand-Rivière.
Et la dragueuse en panne a été réparée. Il ne manque plus que l'autorisation de la remettre à l'eau. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à vous.
Merci. Très bonne journée également, Valentin de Leforterie. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 14h10, heure de Paris. En attendant, très très bonne journée à tous.